VOA Afrique, les infos à Washington.
Il est exactement 11h en temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette tranche d'information. Au microphone, Irene Hermana Ongo. Au Mali, une nouvelle tuerie dans des villages Gangafani et Yoro a fait 38 morts et de nombreux blessés dans le centre du Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a récusé il y a quelques jours toute notion de conflit interethnique et a gossi dans la région de Tombouctou. Une patrouille des forces armées maliennes est tombée dans une embuscade. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Si à Sobanda, la cible des assaillants était des enfants et des vieilles personnes, cette fois-ci, à Gangafani et Yoro, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, ce sont des bras valides qui ont été tués dans les champs. Le bilan provisoire est de 38 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement qui qualifie cette attaque de terrorisme a envoyé un contingent de forces de défense et de sécurité pour sécuriser les populations et leurs biens et traquer les auteurs de ces attaques. Par ailleurs, une patrouille de FAMA est tombée dans une embuscade terroriste à Baguilan, sud-est de Gossi. Des renforts ont aussi été envoyés pour secourir les éléments victimes d'attaques terroristes et sécuriser la zone. Le bilan n'est pas encore connu, mais le gouvernement rassure qu'il informera la population de l'évolution de ces différentes situations. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, 4 personnes dont un soldat ont été tuées près de Jos, dans le centre du pays, par des hommes armés non identifiés, a annoncé hier la police locale. La police et l'armée sont intervenues lundi soir après avoir reçu des informations selon lesquelles le village de Tumburok, dans le district de Rayom, dans l'état du Plateau, était attaqué. Cette région de Rayom est un foyer de tension intercommunautaire qui a connu des affrontements répétés entre agriculteurs et éleveurs ces dernières années. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a fixé hier la date de l'élection présidentielle au 24 novembre. Il a publié un décret officiel après des consultations sur les moyens de sortir de la crise politique qui secoue son pays. Les détails avec John Linden.
L'élection présidentielle est fixée au 24 novembre 2019. Cette date est le fruit d'une concertation entre le président Vaz, les 49 partis politiques, le gouvernement et la Commission nationale des élections. L'annonce de cette date n'a pas débloqué le contentieux autour de la composition du bureau de l'Assemblée nationale où le PAIGC et ses alliés contrôlent une majorité de 54 sièges sur 102. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars, remportées par le PAIGC dirigé par Domingos Simoes Pereira, le pays peine à sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis août 2015. Ce blocage contribue au retour persistant de la désignation du Premier ministre, poste pour lequel la majorité parlementaire a proposé M. Pereira. La crise politique actuelle inquiète, d'autant que les élections de 2014 devaient marquer un retour progressif à l'ordre dans ce pays habitué des putschs à répétition.
Les partisans des vrais musulmans à l'étranger continuent de rendre hommage au président déchu Mohamed Morsi, décédé lundi en plein procès au Caire. Tel a été le cas à Istanbul, en Turquie, à Amman, où, dans un communiqué, les frères musulmans jordaniens ont accusé le régime égyptien, je cite, d'avoir assassiné Morsi en le privant de ses médicaments et de contact avec sa famille et ses proches. Fin de citation. Pour sa part, l'ONU a réclamé une enquête minutieuse et indépendante, tout comme Amnesty International et Human Rights Watch.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a lancé hier en Floride sa campagne pour sa réélection en 2020. À cette occasion, M. Trump a attaqué avec violence les démocrates, les accusant d'être guidés par la haine. Fidèle à son style provocateur, le président américain en quête d'un second mandat a d'entrée enflammé la salle, faisant huer tour à tour les médias fake news. Hillary Clinton, sa rivale de 2016, son prédécesseur démocrate Barack Obama ou encore l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016. Il a accusé ses adversaires politiques de vouloir détruire le pays. Washington et Pékin, enlisés dans une guerre commerciale à l'issue imprévisible, ont envoyé hier des signes de détente annonçant la reprise du dialogue au plus haut niveau. Le point avec Morgane Guiriec.
Le président Donald Trump a révélé dans un tweet avoir eu une très bonne conversation téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping. Au cours de cet entretien, M. Xi Jinping a aussi plaidé en faveur de la coopération. « Nous aurons une longue rencontre la semaine prochaine au G20, Osaka, au Japon », a ajouté le président américain, précisant que les équipes américaines et chinoises seront en contact avant pour préparer ce tête-à-tête très attendu. Cette rencontre pourrait non seulement relancer le processus de négociation, mais encore arrêter l'escalade dans l'imposition de taxes douanières punitives réciproques. Le conseiller économique à la Maison-Blanche a toutefois invité à la prudence. Pour Larry Kudlow, il n'y a pas de garantie de progrès notable sur la possibilité d'une avancée dans ces futures négociations.
Les hauts responsables des forces armées et de la diplomatie américaine n'ont aucune intention de relâcher la campagne de pression maximale sur l'Iran, bien que le régime de Téhéran réagisse de manière de plus en plus dangereuse. Malgré l'accroissement des tensions au Moyen-Orient, les officiels américains soulignent aussi ne pas vouloir commencer une guerre, bien que beaucoup dépendent de ce que va faire l'Iran. Les nombreux messages envoyés à Téhéran sont clairs. Les États-Unis cherchent à dissuader toute velléité d'agression et feront ce qui est nécessaire pour protéger leurs intérêts, a déclaré hier le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en visitant le commandement central américain à Tampa en Floride. L'Iran, qui le dément, est accusé de la responsabilité de récentes attaques contre des pétroliers dans le golfe d'Oman.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Le Tchad abrite cette semaine, du 18 au 19 juin, une conférence internationale sur l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone. La rencontre vise à promouvoir des pratiques éducatives dénuées de stéréotypes sexistes. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodinmadjinga, fait le point.
À travers la rencontre de N'Djamena, les partenaires de l'éducation et l'Organisation internationale de la francophonie s'engagent à réduire les inégalités et les disparités de genre en luttant contre toute forme de discrimination basée sur le sexe.
Pour inverser la tendance, le gouvernement a lancé des actions fortes, à la fois sur le terrain politique, institutionnel et pédagogique.
Idriss Déby Itno, président du Tchad. Ses actions sont entre autres la loi 29 interdisant le mariage des filles mineures, l'instauration des prix d'excellence pour encourager les filles à finir leur cursus scolaire dans un pays où plus de 86% des femmes sont analphabètes. Toutefois, le président Déby reconnaît qu'il reste beaucoup à faire.
En 1991, on comptait certainement moins de 10 000 filles. Dans certaines régions, quand vous partez dans les classes, vous avez plus de filles que de garçons aujourd'hui. Mais à partir de ces premiers cycle, il y a une sorte de chute vertigineuse des nombres de filles. Donc, il faut que nos filles soient nombreuses à investir le territoire des écoles, collèges et lycées.
Pour les observateurs, ce sont les pesanteurs sociales et la pauvreté qui amènent les parents à retirer leurs filles de l'école à un certain âge pour les donner en mariage. Madame Nadia Samdougou Baktara, membre de la société civile, elle coordonne un projet de formation à distance des maîtres au ministère de l'Éducation nationale.
Généralement, les parents disent qu'ils ne voudraient pas quand la fille devient déjà adulte. Là, on s'est dit qu'elle va amener la honte dans le foyer. Certaines traditions disent qu'il faudrait que la fille, elle peut avoir ses premières menstrues, mais pas les deuxièmes au foyer. Donc, il faut vite la confier à un mari. Mais avec les engagements des mobilisations sociales, du ministère, des partenaires et même des organisations de la société civile, les choses sont en train de changer favorablement.
La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Musikiwabo, exhorte les États membres de son organisation à doubler d'efforts pour que les filles le même niveau d'instruction que les garçons.
Nous devons tout faire pour que l'éducation des filles soit portée par nos sociétés, dans le respect de nos traditions, dans le respect de nos pratiques, et nos pays n'attendent que ça. Des préjugés tenaces considèrent que l'éducation s'adresse en priorité aux garçons qui doivent devenir de bons chefs de famille. Il nous faut agir ensemble pour y mettre fin.
Le président Déby rassure ses partenaires qu'un signal fort sera lancé à l'issue de cette rencontre à toute la communauté française francophone pour la scolarisation massive et le maintien des filles à l'école au même titre que les garçons. Car, dit-il, beaucoup de pays francophones, dont le Tchad, sont à la traîne de cette réalité. André Kodumadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Voilà, ainsi s'achève ce bulletin d'information. Retrouvez Henri Francis pour les prochains bulletins de la journée. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonne journée et bonne suite de programme sur VOA Afrique.